Radio Spirale. Dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal, se tenait le 29 mai 2015 un colloque bilingue ayant pour thème « Langue poétique, Poetic Languages ». Radio Spirale vous présente ici la deuxième de quatre parties. L'animateur Samuel Mercier, qui s'entretient avec l'invité Louise Garraud-Desbois.
Oui, rebonjour. Donc, je suis Isabelle Courteau, au nom du Festival de la poésie de Montréal. Vous êtes les bienvenus pour cette deuxième partie de la journée de colloque sur le thème « Les deux solitudes », donc sous la responsabilité de Samuel Mercier. Je tenais à souligner le travail qui s'est fait en comité avec Samuel, donc avec Faulkner Anderson, Antoine Boisclair et Yann Ferrier. Donc, un magnifique travail, vraiment très généreux, donc qu'ils soient tous remerciés pour ce travail franchement enthousiasmant et qu'ils soient remerciés pour leur généreuse collaboration. Alors, merci à eux et donc je laisse la parole à Samuel pour la suite.
Initialement, Jason Camelot aurait déjà des notes, donc mais il ne pouvait pas parce qu'il doit être à Ottawa. Donc, on avait décidé de lire quand même sa communication. C'est un peu dommage parce qu'il ne pourra pas répondre et échanger avec nous. Et entre-temps, il y a Mme Louise Garraud-Desbois qui nous a contactés quand elle a vu qu'on avait fait ce colloque-là. Parce que Mme Louise Garraud-Desbois est celle qui, ben, c'est aussi une écrivaine. Là, je crois que vous travaillez sur un livret en ce moment.
Un livret d'opéra, oui.
Un livret d'opéra. Mais c'est celle qui a traduit le roman « Deux solitudes ». Two Solitudes de Hugh MacLennan. C'est drôle parce que je vais commencer avec une première question, en fait. On a terminé sur la question de la France. Mm-hmm. Ça a été un des enjeux, je crois, dans la publication de Deux Solitudes, le fait que vous l'ayez publié en France et non pas ici au Québec. Comment ça s'est passé et pourquoi c'est arrivé comme ça?
Ça s'est passé. Alors, si je faisais un petit peu la genèse de comment les choses sont passées. En 58, j'étais une toute jeune fille, bien évidemment, et je lis un entrefilet dans Le Devoir qui mentionne que Two Solitudes a été traduit en 6 langues. J'ai mon petit papier pour m'en rappeler, c'est absolument fou. Tchèque, néerlandais, espagnol, suédois, allemand et japonais, et non en français. C'est pas possible, hein? Alors, quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'on se dit? Je suis là, là. Alors, j'avais à ce moment-là, justement, fait des études de traduction. J'avais gagné 2 premiers prix de poésie. J'avais un petit bagage, mais je me sentais capable. J'étais pleine d'enthousiasme. Je me sentais... Enfin, j'espérais pouvoir faire cette traduction. Encore fallait-il rencontrer l'auteur. Alors, n'écoutant que ma hardiesse, j'ai, par l'entremise d'une amie, j'ai pu le rejoindre. Et il m'a dit à ce moment-là qu'il avait confié 6 ans plus tôt les droits de traduction à un jeune traducteur qui avait disparu à Paris, qui n'arrivait pas à le rencontrer. Bon, le hasard faisait, ma vie, ce ne sont que des hasards. Le hasard faisait que le jour précédent, j'avais vu au coin de, je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y en a qui sont assez âgés comme moi, du Medical Heart Building au coin de Guy et j'avais vu ce jeune homme en question que, quand j'étais petite, j'admirais beaucoup parce qu'il était plus âgé que moi, c'était un beau jeune homme. Bon, on demeurait dans le même coin. Alors donc, je peux dire à MacLennan que peut-être que son traducteur éventuel était à Paris, mais qu'il était revenu, il était à Montréal. Alors, MacLennan l'a rencontré. Alors, ce jeune homme, qui était André Dalmane, d'ailleurs, le chef politique, lui a dit qu'il avait eu mieux à faire à Paris que de traduire Two Solitudes. Alors, donc, MacLennan m'a donné les droits. Alors, de faire la traduction, mais encore fallait-il que je trouve un éditeur. Alors, j'ai commencé à faire la ronde des éditeurs montréalais. Et ils m'ont tous découragée. Ils ont pensé qu'une jeune fille comme moi n'aurait pas la force de traduire 618 pages en anglais et que, bon, j'arriverais pas au bout de la chose. Aussi, il y en a un, je me rappelle encore, Pierre Tisser, qui m'avait reproché de ne pas utiliser suffisamment le fameux subjonctif présent. Bon, ou imparfait, whatever. Alors là, il m'a dit, bon, d'accord, McLennan m'a dit, vous n'avez pas pu trouver d'éditeur ici, mais j'ai entendu parler d'une demoiselle Dumas, des éditions Spes à Paris, qui s'en venait à Montréal avec un immense intérêt, semblait-il, pour faire la traduction de To Solitude. Alors il m'a dit, vous devriez aller la rencontrer. Je suis allée la rencontrer dans un hôtel absolument épouvantable, je me rappelle, c'était à côté de chez Perry, et épouvantable, et Mademoiselle Dumas was very impressive, she was about like that, ça va, mais she was stern and all that, très parisienne sévère, là, tu sais, bon. Alors, mais elle avait lu entre-temps les premiers chapitres de ma traduction, alors elle m'a dit, si le reste de la traduction est de la même qualité que ce que vous m'avez soumis, je vous donne les droits. Bon. Alors, j'ai continué. Et j'ai fait signer un contrat avec elle. Un contrat, je vais vous dire juste en passant, parce que c'est trop drôle. C'était un avaloir de 1200 nouveaux francs, enfin francs, je ne sais pas, à l'époque. Et c'était un avaloir. Ça représentait la somme de 258 $. Alors, c'est juste pour vous, il n'y a rien à suivre. Alors, McLennan, qui était un homme excessivement généreux d'esprit, etc., m'a toujours dit « It was a work of love. Obviously, it was a work of love. » Je croyais dans « Not love for him, unfortunately. » Non, c'était un homme absolument sympathique, absolument merveilleux. Et quand je l'ai rencontré, justement, c'était un veuf très triste. C'était un homme très attachant. Il venait de perdre Dorothy Duncan, sa femme, et il était très mélancolique et tout. C'était un homme attachant. Alors, donc, c'est ça. Alors, j'ai travaillé comme une folle pendant, mon Dieu, j'ai commencé en 58 et je devais finir en 61. Les éditions Spes m'avaient donné jusqu'au 31 juillet 61. Alors, pour terminer, alors, les derniers temps, je travaillais 18 heures par jour. C'était absolument fou, mais je suis arrivée, voilà. Alors, donc, j'ai rencontré le deadline.
Comment était la réaction, en fait, de cette traduction en France, là?
Alors,
est-ce que les gens l'ont souligné lorsque c'est sorti?
En France, oui, mais il y a eu des critiques. Et justement, à un moment donné, j'ai apporté ça parce que c'est quand McLennan est mort, j'avais écrit un article, un hommage pour lui. Alors, il m'écrivait, j'espère qu'ils feront bon accueil à notre livre. Il a toujours, comme je vous ai dit, c'est un homme généreux. Alors, il a toujours referred to De Solitude as our book. Ce qui était too much, but anyway, it was nice to hear. Alors, il dit, j'espère qu'ils feront bon accueil à notre livre. Et j'avoue que j'ai été surpris de ressentir une étrange fierté à la vue du mot Paris sur l'un de mes livres. Ou était-ce parce qu'en ce cas précis, De Solitude avait été conçu et commencé en 1941, et terminé juste avant les débarquements du jour J en Normandie, à une époque où peu nombreux étaient ceux qui s'entêtaient à croire qu'aucune forme de littérature émergerait encore de Paris ou d'où que ce fût en France. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question, là, parce que je sais que
C'est-à-dire, comment était est-ce que ça a été soulevé ici, oui, les gens, quand le livre est sorti? Qu'est-ce qui est arrivé?
Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, il y a eu des articles, justement, de O'Neill dans la presse et d'Étier Blais, que je ne connaissais pas à ce moment-là, et qui a qualifié ma traduction d'excellente, mais qui est devenu un excellent ami par la suite. Alors, donc, Jean O'Neill, dans la presse du 15 février 64, écrivait « Il y a chez McLennan un acharnement à vouloir tout dire de toute chose et de tout homme sans laisser la moindre initiative à l'imagination du lecteur. Un acharnement que l'on dirait incompatible avec la production de romans intéressants. Et pourtant, non. La multitude des descriptions et des portraits s'inscrit au bout du compte dans une fresque dont l'ampleur est, je crois, sans pareil dans la littérature d'ici. Il vient un moment, à la page 638, où les détails ont disparu. Il ne reste que la fresque, très vaste, sans faille, étonnamment bruyante de vie. » Évidemment, Étier Blais, lui, remarquait que Paul Tallard est le symbole du Canadien, Paul Tallard le fils d'Anatas, est le symbole du Canadien français en voie d'être assimilé par la communauté canadienne anglaise. Alors, Alors, il parle maintenant de Paul. Il écrit ici, Étienne Blais écrit aussi, Hugh MacLennan a perçu de façon remarquable ce phénomène d'aliénation et le décrit jusqu'à son cruel aboutissement, alors que la jeune femme qui culturellement méprise son mari le trompe et le couvre de ridicule. Mais puisque ce colloque porte sur, est aussi en souvenir de MacLennan, des deux solitudes, etc., est-ce que je pourrais vous lire une lettre qui m'a écrite? C'est parce que en 63-64, il a passé 6 mois à Grenoble. Alors, évidemment, il m'écrivait à ce moment-là très régulièrement. Puis moi, en tant que jeune femme, j'étais très touchée, justement, que bon. Alors, donc, et il m'a écrit une lettre à ce moment-ci, à ce moment-là, qui décrit parfaitement son voyage intérieur quand il a écrit ce livre, ses intentions. D'ailleurs, il a toujours dit « All I wanted to do when I wrote that book was to do an honest book and a healer of wounds. » Alors donc, il voulait évidemment rapprocher les deux communautés culturelles qui, à ce moment-là, étaient beaucoup plus divisées qu'elles ne le sont maintenant, de toute évidence. Ça a été démontré abondamment ce matin. Si vous aviez encore un peu de 5 minutes, je pourrais lire cette lettre.
Oui.
Voulez-vous?
Oui, bien sûr.
Parce qu'elle est je l'ai traduite, évidemment. Elle est très, très touchante, puis elle décrit l'homme et sa démarche beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Chère Madame Garot-Desbois, il était très, même si j'étais très jeune, il était très dans les formes, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, il était à Grenoble. Alors, hier soir, assis dans mon lit, j'ai éprouvé une telle émotion que je vous écrivis une lettre en français au sujet de votre traduction. Ce matin, avec une pleine journée d'écriture devant moi, je l'ai relu, me rendis compte que personne ne viendrait à bout de déchiffrer mon écriture et que j'avais sans doute commis des erreurs de syntaxe, alors ceci vous parviendra en anglais. Je viens de terminer la lecture de votre traduction de la première à la dernière page et ce fut pour moi une expérience déchirante en quelque sorte. Le mot anglais était « poignant ». How do you pronounce that?
Poignant,
hein, c'est ça. Je ne crois pas avoir lu Two Solitudes en son entier depuis la lecture des épreuves, ni en avoir lu des extraits depuis avoir pris connaissance de la première moitié de votre traduction originale. Ce fut comme découvrir le livre d'un autre. La traduction ne pouvait être plus fidèle, cependant, page après page, la langue française rendait l'expérience nouvelle pour moi. J'en vais même à demander avec une certaine incrédulité comment il avait été possible pour un jeune homme dans la trentaine, originaire de la Nouvelle-Écosse et à l'époque incapable de balbutier une seule phrase en français, d'avoir écrit un tel livre. C'est très étrange vraiment et cela me donne aussi une certaine confiance en l'universalité de l'intuition artistique. De plus, le roman sonne aussi juste maintenant qu'à sa parution originale. Il faut se rendre compte que ça, c'était écrit en 64. Ce qui m'a littéralement ému jusqu'aux larmes, c'est la rencontre de Tallard et de McQueen, suivie de la visite du premier à la cathédrale. Vous avez magnifiquement rendu cette scène. Et ici, je suis convaincue que le français, serait-ce parce que Tallard lui-même est si typiquement français, serait-ce à cause de quelque chose dans votre propre expérience qui vous aurait rendu particulièrement sensible à cela? Les hommes d'affaires ne sont-ils pas tous les mêmes? Toujours est-il qu'ici, je suis convaincue que votre traduction est plus puissante que l'original. Toute ma vie, j'ai travaillé à un rythme si effréné que je n'ai jamais eu vraiment le temps de m'interroger sur le sens de mon œuvre, et c'est pourquoi Deux Solitudes est presque un choc pour moi. Suis-je encore l'homme qui l'a écrit? Qu'est-ce au juste que cette permanence de l'identité en chacun de nous? Tout à coup, je me rendis compte que ce personnage d'Anatase Tallard, qu'un tout jeune MacLennan avait tiré de quelque part, plus de 20 ans auparavant, était presque du même âge que le mien maintenant. Et grâce à votre traduction, je ressens sa tragédie plus intensément que je ne l'ai fait lorsque j'ai écrit ces pages. Alors voilà, c'est ça la chose. J'ai pas expliqué une chose, c'est que, d'accord, le livre avait paru en 45. C'est ça, en 45, juste à la fin de la guerre. Mais McLennan avait à ce moment-là donné les droits à une maison d'édition, Lucien Parizeau et compagnie, qui a conservé les droits pendant 3 ans, mais qui a fait faillite en 48. Alors là, il s'est dit que, bon, c'était trop tard, que le roman avait paru 3 ans auparavant, et il n'y a pas vraiment, ni lui, ni son agente d'ailleurs, Miss Gregory, avec qui j'ai une correspondance comme ça, n'avait fait l'effort d'essayer de le faire publier. Alors, c'est pour ça, quand je l'ai rejoint en 58, et après qu'il ait parlé à André Dalman, qu'il était libre de me donner les droits. Alors, c'est ça l'histoire des deux solitudes. Alors, voilà.
Merci beaucoup. Voilà. On a une question ici.
La question rejoint la tienne. En fait, c'est en France, est-ce qu'on a réagi?
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas répondu. Oui, j'ai pas répondu directement. Oui, on a très bien réagi, mais j'ai pas, malheureusement, je devrais avoir des coupures. Il y a eu, qui a duré, évidemment, qui a duré le temps que ça a duré, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Puis après, non, ça s'est évanoui. Et d'ailleurs, ça s'est évanoui en grande partie parce que les éditions SPER ont fait faillite aussi quelques années plus tard. Avec un nom pareil, on aurait cru que... J'ai toujours porté ombrage à mes maisons d'édition. J'ai publié chez Garneau à Québec, ils ont fait faillite. J'ai publié chez Spes à Paris, ils ont fait faillite. Alors... Quelle horreur. Bon, voilà.
Merci beaucoup.
Hein, c'est voilà.
Je pense que ça conclut. Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie.
C'est très généreux de votre part d'être passé.
Radio Spirale.